bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, conseiller ministériel des oiseaux de passage. Bonjour Jean-Michel Emery-Douzan.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques, directeur adjoint de Sciences Po Toulouse. Vous avez dirigé en 2015 aux presses de Sciences Po un ouvrage collectif, Le règne des entourages, cabinets et conseillers de l'exécutif. Et vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Toulouse. Alors, ils étaient sa garde rapprochée depuis son passage à Bercy. Les uns après les autres, les conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée quittent l'entourage présidentiel. Son conseiller politique, son directeur de la communication, bientôt son conseiller spécial et sa conseillère presse, l'heure est au renouvellement. L'affaire Benalla est passée par là, révélant une série de dysfonctionnements au sein de l'Élysée. Mais le départ de ses proches conseillers n'est pas non plus une incongruité dans l'histoire de la Ve République. Les cabinets, qu'ils soient présidentiels ou ministériels, sont sujets au courant d'air. Leurs passagers sont éphémères. Si on ne fait pas carrière dans les cabinets, on peut faire carrière grâce à eux. Comme vous l'écrivez dans votre livre, un passage réussi auprès d'un ministre commande souvent l'accès à de beaux débouchés, une logique qui encourage notamment les phénomènes de cour. Et cette logique est d'autant plus problématique que les cabinets, et donc les conseillers qui y travaillent, disposent de réels pouvoirs. C'est ici, au moins autant qu'au Parlement, que se construisent les lois, dans une relative opacité, dans la mesure où le régime juridique des cabinets n'est pas clairement défini. Alors, conseiller ministériel des oiseaux de passage, c'est le thème de ce nouveau numéro de Politique. Vous avez donc consacré cet ouvrage au cabinet, au conseiller de l'exécutif Jean-Michel Emery à 12 ans. Et pour ce livre, vous avez choisi de mettre en couverture un tableau de Jérôme, l'éminence grise, où l'on voit le père Joseph, conseiller du cardinal de Richelieu qui descend des marches avec un certain nombre de personnages qui lui montrent leur déférence. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le père Joseph pour incarner ces conseillers? Est-ce que vous le trouvez particulièrement représentatif?
Eh bien écoutez Hervé Gardette, c'était un choix collectif que nous avons fait avec mes collègues Xavier Bieuil et Stéphane Mouton que je salue ici et qui ont co-dirigé cet ouvrage. Et nous avions effectivement choisi ce tableau L'éminence grise qui est un peu pompier, Jérôme n'est pas un grand artiste, mais le tableau est bien fait et surtout on y voit un cardinal en grand rouge saluer un simple capucin en robe de bure. Et l'escalier qui est descendu là est celui du palais cardinal de l'époque, qui est devenu entre-temps le palais royal, aux mains des Orléans, puis surtout le siège du Conseil d'État depuis bien longtemps. Donc comme le Conseil d'État est grand fournisseur de membres de cabinet ministériel, c'était évidemment un clin d'œil entre le passé qui ne passe pas et la contemporanéité des phénomènes étudiés.
Alors pourrait-on le qualifier d'éminence grise, lui, d'Emmanuel Macron? En tout cas, Ismaël Emelien, qui est le conseiller spécial du président, le très discret homme du président, pour reprendre le titre d'un portrait que lui a consacré le journal Le Monde, Ismaël Emelien va bientôt quitter l'Élysée et il s'ajoute à une liste qui commence à être déjà longue.
Ismaël Emelien, c'est le stratège du président, sa boîte à idées. Le très discret trentenaire accompagne Emmanuel Macron depuis les balbutiements d'En Marche. Il fait partie de ceux que les marcheurs surnomment les mormons de la Macronie historique. Et c'est le troisième mormon qui quitte le navire, le quatrième de la garde rapprochée si on élargit le cercle. Avant lui, le mois dernier, Sylvain Faure, la plume du président, a annoncé son départ. Stéphane Séjourné, le conseiller politique, est lui parti diriger la campagne pour les européennes. La conseillère communication internationale Barbara Frugier a également quitté son poste. Tout cela coïnciderait avec un désir de renouvellement à l'Élysée.
Voilà, Rosalie Lafarge qui faisait cette analyse dans le journal de France Culture, c'était le 12 février dernier. Jean-Michel Emery, 12 ans, cette série de départs dans l'entourage direct du président de la République, est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel dans l'histoire de la Ve République au bout de 2 ans seulement de mandat?
Écoutez, oui, j'avais fait à peu près le même pointage que votre collègue. On peut y ajouter Alem Garbi, qui est également parti, Alexis Kohler, le secrétaire général, qui n'est pas encore partant, mais qui a consulté la commission de déontologie, qui est une procédure obligatoire pour les hauts fonctionnaires qui veulent partir travailler dans le privé. Et il paraît que, des bruits courraient sur le fait qu'il rejoindrait une grande entreprise nationale. On évoque également le départ à terme de Patrice Rosdal, le directeur de cabinet, bien secoué par l'affaire Benalla. Et puis, le chef du pôle diplomatique, l'éminent ambassadeur Philippe Étienne, serait également un peu fatigué, logiquement. Donc, effectivement, vous posez une question qui paraît logique. Hein. Je vais vous répondre par un petit fait vrai qui était assez amusant. Quand François Hollande lui-même, à peu près à la même période, 2 ans après son installation, 3 ans, a renouvelé toute une partie de son cabinet ministériel. Il y avait eu un numéro célèbre de l'Obs dans lequel on photographiait toute cette galerie de très jeunes conseillers du président de la République, qui semblaient juste frais moulus de l'ENA ou à peu près. Et dans ce numéro de l'Obs, le président de la République actuel, Emmanuel Macron, avait dit « Heureusement que je m'en vais pour devenir ministre de l'économie, parce que de toute manière, le rythme de l'Élysée, je ne pouvais pas tenir plus longtemps comme secrétaire général adjoint de l'Élysée physiquement. »
Et vous notez d'ailleurs ouvrage que la plupart des membres du cabinet d'un président, pas forcément président de la République, d'ailleurs président d'un exécutif, parce qu'il y a aussi les exécutifs locaux qui s'entourent de conseillers, ils ont une durée de vie de 2 ans et le rythme de travail, c'est une des explications en tout cas de ce renouvellement assez fréquent finalement dans les entourages.
Alors soyons complets sur la réponse. Bien sûr que le rythme de travail en est un. Il est évident que j'ai retrouvé dans les lettres, notes et carnets du général de Gaulle qui saluait le départ d'un de ses collaborateurs qui était resté 6 ans avec lui dans la France des années 60 où il n'y avait pas l'information 24 heures sur 24, internet, etc., les emails et les coups de fil du soir et à pas d'heure. Évidemment, le monde a changé. Il se trouve que j'ai interviewé à plusieurs reprises et connu le conseiller Europe du président Sarkozy qui me disait que dans la crise de l'euro, évidemment, et de tout ce qui avait été vécu à ce moment-là, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait plus d'heure. Or, nous vivons de plus en plus une temporalité politique avec des crises. Donc, la combinaison des moyens modernes de communication plus de la gestion de la politique aux émotions et d'un ensemble de crises qui se succèdent fait que le rythme des membres de cabinet les approche du burn-out, pour parler du mauvais français, assez vite. Bon, c'est d'ailleurs ce que dit le monsieur à qui le président confie la réorganisation, semble-t-il, de l'équipe, Philippe Grandjean, qui déclarait récemment qu'évidemment, il est normal que des gens qui travaillent 16 heures par jour veuillent à un moment changer de travail.
Jean-Michel Emery, 12 ans, il y a le fait que certains conseillers puissent faire le choix de partir. Alors, en raison notamment de ce rythme de travail. Il y a aussi des décisions qui sont celles d'une réorganisation des équipes en interne. Est-ce que, en termes de message politique, réorganiser un cabinet comme par exemple celui de l'Élysée, c'est aussi envoyer un message politique de la même manière qu'on en envoie un quand on fait un remaniement gouvernemental?
Bien entendu. Je pense qu'il y a, un, le phénomène d'épuisement, 2, le phénomène de carrière, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, des hommes et des femmes, mais beaucoup d'hommes, hein, puisque sur l'équipe du président, une 60aine de personnes, il n'y a que 16 femmes actuellement, compte tenu aussi de ce qu'est le rythme de vie, la difficulté de combiner ça avec une vie de famille, enfin ça a été bien décrit par des femmes membres de cabinet que nous avons interviewées, vous avez ces personnes qui sont désireuses de faire carrière, c'est-à-dire désireuses d'obtenir des emplois prestigieux à la sortie, à la décision du gouvernement ou autre. Or, sur un rythme de quinquennat et non plus de septennat, il faut vous dépêcher d'obtenir ces avantages de sortie cabinet, puisque mécaniquement, on n'est pas du tout sûr que les présidents soient réélus et que le quinquennat est court. Donc je pense que le quinquennat lui-même a à la fois accéléré la vie politique française en général, mais accéléré aussi la rotation dans les cabinets ministériels pour ceux qui veulent en sortir avec un plus de carrière. Ensuite, sur votre deuxième question, évidemment, comme pour François Hollande, quand il avait changé son équipe de cabinet et qu'il avait substitué, on se le rappelle, en 2014, son ami Jean-Pierre Jouyet à Pierre-René Lemas, qui avait été le chef de sa première équipe, au bout de 2 ans, bien de la même manière, il avait remplacé au gouvernement, il avait changé Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls. Moi, j'avais dit déjà à l'époque, et je le constate à nouveau aujourd'hui, c'est une forme de remaniement de cabinet comme il y a des remaniements ministériels. Et ceci devient une technique de gouvernement, une technique pour alerter l'opinion qu'il y a un changement de cap. Et c'est d'ailleurs pourquoi les journalistes s'y intéressent et que nous faisons cette émission aujourd'hui.
Voilà, ils s'y intéressent aussi parce que ce sont des personnages qui sont un peu mystérieux, on ne les connaît pas bien. Et ça favorise aussi peut-être une partie de l'intérêt qu'on leur porte. Je voudrais revenir sur cette question qui me paraît essentielle de l'utilisation, on va dire, d'un passage en cabinet pour faire carrière par la suite. Vous avez ces phrases, hein, là aussi je vais encore citer votre livre, Jean-Michel Emery, 12 ans. « La faveur si recherchée par l'ambitieux qui intègre un cabinet n'est pas une rétribution immédiate mais différée, tant il est vrai que l'on entre dans un cabinet ministériel pour mieux en sortir. Et vous y voyez au moins un effet pervers, c'est que ça encourage les phénomènes de cours. Et il y a même un conseiller technique d'un ministère qui témoigne de manière anonyme, qui dit « Les ministres, même les plus intelligents, adorent les courbettes. Du coup, on a souvent des entourages sans consistance. » Ça, c'est quand même pas terrible.
Mais oui, c'est toujours l'éternel problème. Comment porter la vérité jusqu'au prince ? La vérité, on arrive à la connaître, notamment la vérité des problèmes de politique publique. La question, c'est est-ce que le prince, prince républicain naturellement, et j'inclus les ministres dedans, pas seulement le président, mais un président de région, c'est pareil, un maire de grande métropole, c'est pareil. Comment faire arriver la vérité des problèmes jusqu'au prince ? Ces cabinets ont un avantage, ils démultiplient la puissance du prince, ils démultiplient son cerveau, ils lui permettent d'être sur tous les fronts en même temps. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent être un écran, ça a déjà été dit depuis bien longtemps, mais nous constatons ce phénomène encore et encore, alors que nous sommes dans des sociétés de l'information où normalement toute l'info circule, mais en réalité, les informations les plus pertinentes ne remontent pas toujours au prince. Donc bien sûr, si ces personnes n'avaient pas l'ambition de faire carrière derrière et d'avoir une rétribution immédiate, on peut par comparaison observer ce qui se passe en Norvège ou dans certains pays scandinaves, qui sont des pays où il y a des gouvernements de coalition qui changent souvent, où il y a une administration stable et une espèce d'état-major proche du ministre qui est un peu l'équivalent fonctionnel de nos cabinets, sauf que ça ne fonctionne pas pareil parce que ce ne sont pas des personnes qui changent avec le ministre systématiquement et qui attendent un plus de carrière.
Et ce sont peut-être aussi des personnes qui sont plus expérimentées. Là, dans les cabinets ministériels aujourd'hui en France, ce sont des personnes jeunes. Donc, conseiller et s'opposer au prince quand on a peu d'expérience, c'est forcément un peu plus compliqué.
Très compliqué. Alors il y a toujours eu, quand on regarde et qu'on fait la sociographie des cabinets, les directeurs de cabinet des ministres ou du Premier ministre et le secrétaire général de l'Élysée, puisque l'Élysée c'est un peu particulier, ce qu'on appelle secrétaire général de la présidence, en fait c'est le fonctionnellement, le vrai directeur de cabinet du président, qui a quelqu'un qui a le titre de directeur de cabinet par ailleurs, mais qui s'occupe plutôt des nominations, des voyages, des légions d'honneur, de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Bon, donc il faut plutôt comparer le DIRCAP d'un ministre, le directeur de cabinet de Matignon et le secrétaire général de l'Élysée. Bon, ces personnages ont toujours une seniorité supérieure en général. C'est vrai en revanche que le jeunisme des cabinets est devenu un phénomène que nous avons identifié avec mes collègues et quantifié. Dans la France des années 60-70, avoir 45 ans en cabinet n'était pas anormal sous Giscard et Barre, alors que ça n'a cessé de se rajeunir essentiellement à partir de Sarkozy. Donc la rupture est entre le deuxième mandat de Chirac et le quinquennat Sarkozy. Sarkozy a énormément rajeuni les entourages. François Hollande a continué dans le même sens.
Alors Jean-Michel Emery, 12 ans, je voudrais vous faire écouter le témoignage de quelqu'un d'expérimenté qui lui n'était pas chef d'équipe mais qui était conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, et qui expliquait son rôle en 2008 sur France Culture dans le rendez-vous des politiques, son rôle auprès du président de la République.
Vous l'avez remarqué, je ne suis pas président de la République. Dès lors que j'ai accepté d'en être le conseiller et donc pas avoir moi-même de pouvoir de décision, j'ai accepté par nature de faire des compromis tous les jours. C'est, encore une fois, je suis là comme conseiller, donc je conseille, je dis ce que je pense. Des fois, ça correspond à ce que le président de la République a envie de faire, et puis des fois pas. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'ai changé d'avis sur un certain nombre de sujets. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais enfin bon, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas là pour exprimer à tout bout de champ mes opinions, mes idées, mais pour essayer de faire en sorte que la décision du président de la République soit éclairée, qu'il ait toutes les données du problème, c'est pour ça qu'il m'a demandé d'être à ses côtés. Voilà, après le jour où vraiment je me sentirai heurté très profondément dans ma conscience, à ce moment-là j'irai faire autre chose.
Alors Henri Guénaud, c'était en 2008 sur France Culture avec oui. Dominique Rousset. Jean-Michel Emery, 12 ans, est-ce qu'il y a des raisons de ne pas croire entièrement les propos d'Henri Guénaud quand il dit par exemple qu'il n'a aucun pouvoir de décision ?
Mais écoutez, et il faut prendre deux choses là. D'abord le rôle particulier du conseiller spécial ou du conseiller auprès du ministre, qui est toujours quelqu'un de, ou du Premier ministre ou du Président, qui est toujours quelqu'un ou quelqu'une placé hors hiérarchie, donc qui échappe un peu à l'autorité du directeur de cabinet ou du secrétaire général et qui a le contact direct avec le prince. Il y en a eu de célèbres auprès de Jacques Chirac, Marie-France Garraud, etc. Et il y a eu Henri Guénaud auprès de Sarkozy, il y a eu Aquilino Morel auprès de de François Hollande, et on se souvient des débats sur le fait de savoir s'il est l'auteur du discours du Bourget ou si c'est bien le président qui l'avait écrit. Ces personnages ont toujours été sulfureux. Ils l'étaient déjà à l'époque des années 70, autour de Chirac, je le disais. Ils le sont restés. Ce sont des personnages qui sont les rares d'ailleurs à s'exprimer, puisque normalement les gens de cabinet sont des hommes de l'ombre et parlent peu. Et ce que l'on a vu effectivement avec Sarkozy, c'est à la fois le rajeunissement des équipes et le fait que certains, notamment Guénot que vous venez de passer à l'antenne, et le secrétaire général de Sarkozy qui était Claude Guéant, se sont mis à s'exprimer en public, à accorder des interviews, ce qui n'était absolument pas le cas sous Chirac, sous François Mitterrand, Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, qui étaient les secrétaires généraux de Mitterrand, ont toujours été des tombes, de même que Jean-Claude Colliard, son directeur de cabinet.
Ce qui est donc là, il y a une façon d'ailleurs peut-être, en s'exprimant, de prendre une forme de pouvoir, en tout cas d'assumer une forme de pouvoir qu'on ne fait pas quand on parle moins, même si, et là je voudrais qu'on en arrive au cabinet et à leur directeur, que vous avez brièvement évoqué tout à l'heure, Jean-Michel Emery, 12 ans. Alors eux, c'est vrai qu'on ne les entend pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, au contraire, on les présente assez souvent comme des vice-ministres, et vous dites, là aussi dans votre livre, que l'accélération du temps politique les renvoie de plus en plus justement à cette fonction de vice-ministre, dans la mesure où les ministres, eux, sont réclamés à tout bout de champ dans l'espace médiatique, et qu'ils n'ont même pas vraiment le temps de s'occuper ni de l'activité de leur ministère, ni des grands dossiers de politique publique. Ce sont les directeurs de cabinet qui détiennent le véritable pouvoir dans les ministères ?
Écoutez, personne ne détient le véritable pouvoir seul, sinon nous ne serions plus en démocratie, donc ce sont des tétrarques et tout ce que l'on voudra. Mais pour les gens qui ne sont pas familiers de tout cet univers, je les renvoie au très joli film L'exercice de l'État avec Michel Blanc dans le rôle de directeur de cabinet d'un ministre, qui est très très proche de la réalité, qui était vraiment très bien fait. J'enseigne depuis 20 ans à mes étudiants que de toute manière, quand après ils exercent des fonctions et qu'ils ont à toucher un ministre, c'est pas le ministre en personne à qui il faut parler à la descente d'un avion ou d'une estrade qui va vous dire oui, oui, et vous aura oublié, c'est le rendez-vous de 5 minutes avec le directeur de cabinet. Donc dans le système français, le directeur de cabinet, le DIRCAB pour les initiés, est la doublure politico-administrative du ministre. Je me souviens très bien du directeur de cabinet de Lionel Jospin, éminent conseiller d'État, Dominique Schrammeck, qui avait pour coutume de dire « je prends les décisions au nom de Lionel Jospin dans la journée, et puis effectivement, le soir, nous nous réunissons et je lui dis « Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, vous avez décidé ça ». Et il ne faisait partir les parapheurs que le lendemain matin, ce qui laissait tout le temps le soir avec le Premier ministre de réviser, changer, rapporter quelque chose. Donc effectivement, il y a une mécanique de l'État dont les grands horlogers sont les directeurs de cabinet.
Votre anecdote, Jean-Michel Emery, 12 ans, elle fait évidemment sourire, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez inquiétant du point de vue démocratique, justement, c'est-à-dire de voir autant
Oui et non, c'est-à-dire que on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. La thèse que nous défendons, les collègues et moi, encore une fois, c'est un collectif, c'est de dire le ministre n'est plus une personne physique. Et le Premier ministre non plus, et le Président non plus. Donc nous sommes gouvernés par des équipes politico-administratives au nom d'un prince qui est la figuration de ce collectif. Le problème, c'est qu'il faut donc que ce collectif fonctionne vraiment comme une équipe. Or, ça n'est pas toujours le cas en raison du phénomène curial que vous évoquiez tout à l'heure. Et il y a dans ces équipes qui ne font pas équipe des gens qui se tirent dans les pattes, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a été souligné d'ailleurs là à l'occasion des départs de messieurs Séjourné, Madame Diaye et autres, et monsieur Émélien, qui était semble-t-il partisan d'un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes, et on comprend que c'est pas ce qui a été retenu. Donc il y a des tiraillements dans ces collectifs.
Des tiraillements et aussi des velléités parfois de se servir du pouvoir qui est le leur, pas forcément seulement les directeurs de cabinet, mais également les conseillers techniques des ministères. Il y a là aussi un témoignage qui m'a beaucoup frappé dans l'ouvrage. Je crois que c'est le même conseiller technique que j'évoquais tout à l'heure qui vient justement de l'Institut d'études politiques de Toulouse. Et quand on lui demande est-ce que on a du pouvoir en cabinet, il dit bien sûr qu'on a du pouvoir, c'est pour cela qu'on y vient. Par comparaison avec un député, c'est même saisissant. N'importe quel amendement de n'importe quel député, il suffit qu'en tant que membre de cabinet qui suit ce dossier, vous n'en vouliez pas et vous l'auriez. Ça veut dire que ce déplacement du pouvoir, il se fait quand même beaucoup au détriment des parlementaires. Et ça, on peut le voir avec l'évolution justement de la place prise par les cabinets ministériels.
Oui, alors en même temps, les cabinets ont toujours existé. Ils fonctionnaient sous les républiques parlementaires précédentes à députés puissants de la 3e et de la 4e. Donc ce qui est phénoménal avec les cabinets ministériels, c'est comme la Légion d'honneur, c'est comme l'Institut de France, c'est comme un certain nombre d'autres choses, comme la Royale et autres. Ça existe depuis des siècles, ça traverse les régimes et ça perdure. Cour des comptes, Conseil d'État, même combat. Donc les cabinets ministériels sont apparus le premier. C'est Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, ministre de l'Intérieur. Et sous tous les régimes successifs, ils ont fleuri et ils se sont renforcés. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas les cabinets ministériels qui causent l'abaissement du Parlement sous la Ve République, c'est la volonté du constituant dès l'origine. Et c'est ensuite un certain nombre d'évolutions, dont les transferts de compétences à Bruxelles, puisqu'on pourrait refaire le même raisonnement et dire que les députés sont faibles par rapport à toutes les réunions qui se passent au secrétariat général pour les affaires européennes, à toutes les réunions qui se jouent à Bruxelles, où la France est représentée au Conseil essentiellement par des fonctionnaires. Donc là encore, comme les fonctionnaires composent aussi la majeure part des cabinets ministériels, finalement ça nous renvoie au débat entre le pouvoir des députés et le pouvoir des hauts fonctionnaires dans ce pays.
Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas la nécessité, Jean-Michel Emery, 12 ans, étant donné la place qu'occupent ces cabinets dans la vie politique française, de les doter d'un statut beaucoup plus clair? Il n'y a pas de loi qui définit le régime juridique des cabinets. Est-ce que ça n'est pas un manque?
Excellente question et très épineuse. Oui, nous avons une absence de régime juridique des cabinets ministériels. Il y a au fond très peu de choses, il y a quelques règles qui... notamment les règles de taille, limites de taille qui ont tant suscité l'intérêt quand le gouvernement Philippe a décidé de limiter à 10 par ministre, 7 ministres adjoints, ministres délégués et 5 secrétaires d'État. Mais hormis ces quelques règles ou le fait qu'on n'a pas le droit d'obtenir une décoration quand on est en cabinet, etc., on n'a pas un vrai régime juridique. Et là, le problème qui se pose tout de suite et qui est un problème épineux, ça revient à dire que on mettrait sous le contrôle du juge administratif, puisque par hypothèse ce serait des décrets attaquables en recours pour excès de pouvoir et qui ensuite susciteraient du contentieux. Ça mettrait sous l'autorité du Conseil d'État l'activité même de gouverner. Ça ouvrirait la boîte noire de ce que c'est que ce ministre qui n'est plus une personne physique mais un collectif. Et cette boîte noire, le Conseil d'État, avec sa doctrine des actes de gouvernement, a jusqu'à présent toujours refusé d'entrer là-dedans et de la contrôler, en considérant qu'à partir de là, il deviendrait un censeur des gouvernants au sens romain du terme, c'est-à-dire les censeurs à Rome étaient supérieurs aux consuls, étaient d'anciens consuls.
Certains, Jean-Michel Emery, 12 ans, ont quand même manifestement l'intention et l'envie d'aller un petit peu dans cette boîte noire. Je pense à la commission sénatoriale sur l'affaire Benalla, qui a fait un certain nombre de préconisations. Et parmi celles-ci, mettre fin à l'expérience de collaborateurs officieux, conditionner le recrutement des collaborateurs du président de la République, puisqu'il s'agit là de l'Élysée, cette commission d'enquête, à la réalisation d'une enquête administrative préalable, sans aller jusqu'à un régime juridique un peu strict. Il y a peut-être quand même des points d'amélioration à apporter par rapport au fonctionnement de ces cabinets.
Absolument, absolument. Je suis convaincu qu'il est nécessaire de faire des améliorations, notamment un contrôle des profils des personnes qui sont recrutées. Une enquête préalable, ça me paraît logique. La deuxième chose, c'est qu'il faut supprimer les officieux à la présidence, comme à Matignon et ailleurs. Quand on se souvient qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait des gens payés en liquide, que les primes de cabinet étaient versées en liquide aux chefs de cabinet et aux ministres qui les redistribuaient. Tout ça a été terminé grâce à une intervention de Lionel Jospin, un premier ministre, et c'est très bien. Donc il importe de continuer dans la voie de cette clarification des choses. En revanche, imaginez qu'on va écrire un décret où on va expliquer ce que fait le Sherpa du président de la République, ça revient à dire qu'on définit ce que fait le président, en creux. Donc ça, à mon avis, ça n'a pas de sens constitutionnel et politique. Vous voyez la différence.
Jean-Michel Emery, 12 ans. Justement, parlant de différence, vous insistez notamment dans le livre sur la spécificité des cabinets ministériels français, spécificité qui tient notamment justement au fait qu'ils sont assez pléthoriques. Et on a voulu savoir ce que cela pouvait produire quand il y avait une confrontation justement entre différentes cultures politiques. Vous parliez tout à l'heure du niveau européen, mais justement, bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
C'est à cette échelle européenne que vous vous êtes intéressé aujourd'hui.
Oui, en interrogeant un fin connaisseur des coulisses de cette politique européenne, Quentin Dickinson, qui est chef du bureau européen de Radio France à Bruxelles. Je lui ai demandé comment fonctionnent les cabinets de la Commission et du Parlement, et surtout quel est le rôle politique de ses conseillers, des entourages et de ses dirigeants européens. Donc on l'écoute.
Eh bien, la différence est patente par rapport aux pratiques parisiennes qu'on connaît bien. Chacun des 28 commissaires européens, par exemple, n'a droit qu'à 5 membres de cabinet, sauf évidemment dérogations ponctuelles, dûment motivées et sans tenir compte, comme d'habitude, du personnel d'exécution et de soutien. Alors, la nomination de ces conseillers est entièrement publique et transparente, qu'ils soient issus d'ailleurs des services ou alors venus de l'extérieur. Et puis, bien sûr aussi, compte tenu de leur petit nombre, il n'y a guère place pour du bois mort ou des emplois de complaisance. Alors, parce que la Commission européenne fonctionne en collège, les commissaires et leurs cabinets ont droit de regard sur le portefeuille de tous leurs collègues, et c'est notamment le cas lors du conclave des directeurs de cabinet qui prépare la réunion hebdomadaire des 28 commissaires. Alors, il en va autrement au Parlement européen, car c'est une institution par définition bien plus politique que la Commission. Il y a une distinction de fond, d'ailleurs, entre les fonctionnaires et agents du Parlement lui-même, donc de l'institution, et d'autre part, les agents recrutés et promus sur des bases bien plus floues par les groupes politiques. En dépit de codes de conduite et de règlements intérieurs successifs, eh bien, la capillarité avec les groupes d'intérêt extérieurs, on peut appeler ça des lobbies si vous préférez, est réelle et peu lisible et parfois même inavouable.
Et ce tableau étant posé, on peut se demander quel contact entretiennent ces conseillers européens avec leurs homologues des exécutifs nationaux. Est-ce que des problèmes peuvent être posés, par exemple en raison de la différence de culture politique? Pour le dire clairement, comment ça se passe quand tous ces gens doivent travailler ensemble?
Traditionnellement, le dialogue n'était pas évident entre les deux, même lorsqu'ils étaient de la même nationalité et avaient accompli à peu près les mêmes études supérieures. Alors, cela va bien mieux, il faut le constater, depuis une dizaine d'années, grâce, il s'agit de la France, bien sûr, à l'impact croissant du post-Erasmus, grâce aussi au stage obligatoire dans la dimension européenne pour les élèves du cycle administratif long de l'ENA. Et puis, il est vrai aussi, il faut constater une ombre au tableau, c'est que l'incapacité à négocier en plusieurs langues, et pas seulement à articuler l'anglais jargonnant, reste quand même un obstacle majeur pour les Français qui représentent la France, contrairement à leurs compatriotes fonctionnaires européens. Mais la France a un atout rare dans ce contexte, c'est que depuis 30 ans, ce sont à peu près les mêmes hauts fonctionnaires, au nombre de moins de 100 sans doute, qui tournent sur les postes eurosensibles à l'Elysée, à Matignon, au Quai d'Orsay et à Bercy notamment, ce qui assure une grande continuité dans la présentation des objectifs techniques recherchés par la France. Donc il y a du mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait parfait.
Voilà, Quentin Dickinson, chef du bureau européen de Radio France à Bruxelles.
Jean-Michel Amrier, 12 ans, pour terminer, il y a une spécificité du conseiller ministériel français qui se voit d'autant plus quand elle est confrontée à d'autres cultures politiques, comme par exemple lorsque ça se passe au niveau européen.
Oh oui, c'est très évident. C'est-à-dire que beaucoup de pays européens n'avaient pas même de tradition de cabinet ministériel. C'était le modèle britannique du Minister's Private Office, qui était le secrétaire particulier, hein, comme nous en avions au 19e en France, et un tout petit nombre de gens s'occupant des discours, etc. Donc des équipes de 3-4 personnes, où vous n'avez pas à ce moment-là tout cet aspect curial, tout cet aspect hiérarchique aussi, parce que quand vous avez des cabinets à 30 personnes, comme on en avait sous François Hollande, il ne faut pas imaginer que les conseillers de cabinet voient souvent le ministre en personne. Quand vous avez une équipe à 60 à Matignon ou à l'Élysée, et même plus sous Sarkozy, certains conseillers sont essentiellement dans un rapport de notes écrites avec le président ou le ministre. Et c'est le directeur de cabinet qui fait l'interface. Donc ça hiérarchise, ça a la taille d'une PME, si vous voulez. Alors que dans beaucoup d'autres pays, ce sont des cabinets beaucoup plus petits. Les Britanniques ont adopté un système de cabinet, mais leurs special advisors, ils ne sont pas plus de 100 pour une trentaine de ministres, donc ça veut dire qu'effectivement, on est sur des effectifs bien plus réduits par rapport à nous. Donc cet effet de taille joue, et dans certains pays aussi, une durée dans les fonctions qui en fait plutôt une espèce d'état-major administratif.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Emery, 12 ans. Là, si vous vous intéressez à ce monde passionnant des cabinets des conseillers de l'exécutif, je renvoie au Règne des entourages, publié aux presses de Sciences Po, ouvrage collectif, que vous avez co-dirigé avec Xavier Bioy et Stéphane Mouton. Cette émission politique a été préparée comme chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Peyrel Legras, avec à la prise de son Florent Bujon. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr. We'll be right back. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Je vous retrouve pour ma part lundi à 18h20 avec Du Grain à Moudre. Dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.